Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit enseignement sur l'évangélisation à l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que on l'a dit hier dans les topos généraux, mais en fait, l'écoute de l'Esprit Saint, c'est quand même le moteur. Comme l'a dit Paul VI, l'Esprit Saint, c'est l'acteur principal de l'évangélisation. Donc voilà, le Seigneur veut passer par nous, mais justement, la question, c'est est-ce qu'on le laisse passer ? Et du coup, ça nous paraissait important de creuser un peu cette question de comment est-ce qu'on écoute l'Esprit Saint, comment est-ce qu'on se laisse guider par lui, et notamment dans l'évangélisation. En fait, évangéliser, concrètement, ça veut dire communiquer la bonne nouvelle. Donc, communiquer l'évangile, et l'évangile, ça signifie bonne nouvelle. Et en fait, quand on fait de la com, on se rend compte qu'il y a trois choses qui importent dans la communication, c'est... est-ce que le message est bon et intéressant ? En l'occurrence, je suis le chemin, la vérité, la vie, on l'a assez dit hier. Donc nous, on sait que le message, il est bon et il est véridique. Ensuite, il y a la question de l'écoute qui va être accordée, du public, en fait. Est-ce que le public est accessible, intéressé, etc. Et ça, en fait, c'est pas notre responsabilité. C'est l'Esprit-Saint lui-même qui déjà prépare les cœurs des personnes qu'on va rencontrer. Donc nous, on n'a pas à s'occuper de ça. Et après, il y a est-ce que le canal de communication est un bon canal ? Est-ce qu'on utilise le bon moyen ? Et donc, c'est là où nous, notre enjeu, c'est d'être de bons outils pour la communication. Et en fait, être un bon outil, c'est pas d'abord avoir des qualités humaines, d'empathie, d'écoute, un talent d'orateur, etc., même si c'est des choses qui peuvent aider. Mais voyez, Saint Paul dans les Corinthiens, je crois, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Comme je ne suis pas sûre de retrouver rapidement, je ne sais plus exactement la référence, mais il dit... Bon, je ne vais pas retrouver... Il dit « Je ne suis pas venu pour vous parler avec le langage de la sagesse humaine ». En fait, il dit « Je ne vous annonce pas l'évangile avec le langage de la sagesse humaine ». Mais voilà, que l'évangile, elle a une puissance en lui-même. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser toutes nos facultés et tous nos talents, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'évangélisation qui dépasse le fait qu'on soit humainement bien doué. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que, comme ce topo, c'est un topo sur l'écoute de l'Esprit-Saint, en fait, on le vive un peu comme une grande prière où en fait, on se met déjà à l'écoute de l'Esprit-Saint pendant ce petit enseignement et puis où on essaye de le remercier pour ce qu'il fait déjà. Donc, Seigneur, nous te bénissons de nous envoyer comme messager d'une parole véridique. Nous te rendons grâce parce que tu n'attends pas de nous que nous accomplissions des exploits, mais tu nous demandes de devenir tout petit pour nous laisser faire par toi. Seigneur, nous te prions d'ôter de nos cœurs tous nos doutes quant à la qualité, la vérité, la valeur ou l'actualité de ce que nous annonçons. Donne-nous aussi d'avoir l'humilité de savoir que la réception de l'annonce dans les cœurs des personnes rencontrées ne dépend pas de nous. Amen. Alors, du coup, la grande question, c'est comment est-ce que je vais écouter l'Esprit-Saint ? L'écoute, c'est le premier des commandements, c'est « Écoute Israël ». Voilà. Et cette question de l'écoute, en fait, elle est hyper essentielle parce que c'est là que se noue la relation. Vous voyez, le prophète Élie, quand il conseille au jeune Samuel, vous voyez, il entend Samuel, il lui dit « Dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et en fait, Samuel, il ne connaît pas encore le Seigneur. Et comment est-ce que la relation avec le Seigneur va se faire ? C'est dans l'écoute. Voilà. Et toujours, on voit la parole du Seigneur qui vient. Et la question de comment est-ce que le peuple entre en relation, c'est comment est-ce qu'il l'écoute ? Et parce que l'écoute de la parole du Seigneur, c'est le chemin de la justice. Voilà, donc on voit dans le psaume 81, par exemple, « Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins. » Voilà, qui est la question de toujours pour marcher à la suite du Seigneur, il faut d'abord pouvoir l'écouter. Pour pouvoir écouter, en fait, il y a deux présupposés. Le premier présupposé, c'est la question, c'est de croire que le Seigneur est là et qu'il parle. Et le second, c'est de faire silence. Croire que le Seigneur, que l'Esprit Saint est là et qu'il parle, c'est en fait, il y a plusieurs faits qui peuvent nous mettre dans cette confiance de croire que le Seigneur est là et qu'il parle, c'est que nous n'aurions pas le désir d'évangéliser si l'Esprit Saint ne l'avait pas suscité en nous. En fait, vous voyez, par exemple, le ministère de Jésus, il commence avec son baptême et le fait que l'Esprit Saint est manifesté comme venant sur lui. Alors, ça ne veut pas dire que l'Esprit-Saint n'était pas en Jésus avant, mais ça veut dire que la mission vient avec une descente significative de l'Esprit-Saint. De même, pour nous, on est invité à être missionnaire parce qu'on a été baptisé, donc parce qu'on a reçu l'Esprit-Saint, et encore plus avec la confirmation. Voilà. Donc, on voit que dans l'histoire de l'Église, ça s'ancre dans des sacrements, le fait qu'on est envoyé en mission. Et ça s'ancre dans la réception de l'Esprit-Saint, dans le fait que c'est l'Esprit-Saint qui nous envoie. C'est aussi l'Esprit-Saint qui éclaire nos intelligences, et Jésus lui-même promet qu'avec l'Esprit-Saint, on entrera dans la vérité, c'est-à-dire que nous-mêmes, on comprendra mieux et on saura quoi dire. Voyez. Quand on vous traduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car l'Esprit-Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Voilà. Donc, puisque c'est la promesse de Jésus que l'Esprit-Saint sera avec nous, voilà. En fait, notre capacité à écouter l'Esprit-Saint est aussi à la mesure de notre confiance dans le fait qu'il parle et qu'il est là. Et puis, aussi, moi, l'expérience que j'ai faite, c'est qu'en fait, l'Esprit-Saint, dans la rencontre, il parle au cœur des personnes, au-delà des paroles que nous, on va dire. Donc, je me souviens, par exemple, de la rencontre. Hier soir, j'ai témoigné de la rencontre avec Stéphane, le jeune garçon qui avait dit à la fin « Je veux être sauvé ». Et en fait, ce garçon, pendant qu'on parlait, moi, justement, je n'étais pas très satisfaite de ce que je racontais. Parfois, moi, j'ai plutôt des facilités pour m'exprimer, donc parfois je suis un peu contente de moi. Et en fait là, ce jour-là, je me disais, oh là là, je suis pas bonne, j'avais vraiment l'impression de patiner pendant que je parlais avec lui. Et en fait, lui, il m'a dit, en fait, ce qui est très étonnant avec vous, les chrétiens, c'est qu'il y a une paix en vous qu'on sent et qui dépasse, enfin voilà, qui disait, vous dégagez une paix, une confiance, etc. Et en fait, moi, je m'étais dit, en fait, l'Esprit-Saint lui parle à son cœur au-delà de ce que moi je peux dire, et peut-être que je ne m'exprime pas bien, et peut-être que je suis hyper maladroite dans ce que je dis avec mes mots. Mais en fait, l'Esprit-Saint est là qui lui parle et qui me parle. Et voilà. Donc, vraiment, je pense que la question n'est pas de rendre présent l'Esprit-Saint, mais c'est vraiment la question de comment est-ce que nous, on va se rendre présent à lui. Souvent, parfois dans les chants, même on dit « Viens, Esprit-Saint, viens », comme s'il était extérieur ou pas là. Et en fait, on peut demander un surcroît d'esprit, mais ayons confiance que l'Esprit-Saint est vraiment là, que c'est lui qui nous a appelés, que c'est lui qui nous envoie, et que donc il ne nous lâche pas, quoi. Qu'après, on peut se rendre disponible. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es là. Nous croyons que c'est toi qui as fait naître en nous le désir d'annoncer l'Évangile. Nous te remercions de nous avoir marqués de l'amour de Dieu à notre baptême. Nous te bénissons pour tant d'hommes et de femmes que tu as inspirés afin que l'Évangile parvienne jusqu'à nous. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu as déjà travaillé les cœurs que tu nous envoies rencontrer. Saint-Esprit, nous te supplions de ranimer dans nos cœurs le désir de proclamer combien le Père est grand et de quel amour il nous a aimés. Saint-Esprit, nous te demandons d'ôter de nos cœurs toute inquiétude sur le fait que nous ne serions pas les bonnes personnes, pas assez qualifiées pour annoncer Jésus. Donne-nous d'être mendiants de tes directions pendant cette mission et en tout temps. Amen. Donc, la deuxième condition, avec le fait de savoir que l'Esprit-Saint est là, c'est la question de faire silence, voilà, d'être capable d'être un peu vide de soi. Alors, le silence, en fait, il y a plusieurs degrés. Il y a la question d'abord du silence extérieur. Et vous voyez, hier, pendant le retour de mission, je disais que moi, l'axe que je voudrais améliorer, c'est la capacité à accepter qu'il y ait des blancs dans la conversation, qu'il y ait des temps, même dans la conversation de la rencontre de rue, qu'il y ait des moments où y a un silence. Et en fait, de faire confiance que c'est un moment où l'Esprit-Saint parle à moi, à l'autre. Voilà. Donc il y a ce silence extérieur. Et ce silence extérieur, c'est aussi, du coup, quand nous, on se tait pour laisser parler notre binôme. Voilà. De profiter des moments où le binôme parle pour pouvoir prier, donc voilà, d'avoir ce silence de nous, notre voix. Ensuite, il y a la question du silence intérieur, un peu des bruits parasites qu'il peut y avoir dans notre âme. Soit par rapport à ce que dit la personne et où on a toutes nos réactions affectives, etc. Soit parce que, en fait, vous êtes là, mais vous avez vos soucis, vos enfants, vos petits... Enfin, plein de choses qui viennent et qui font qu'en fait, on n'est pas vraiment disponible. Et un petit exemple que je pourrais vous donner, c'est que il y a quelques mois maintenant... à l'oraison, donc je faisais oraison et j'étais en silence, donc dans ma chambre, voilà, je faisais oraison et j'avais l'impression d'être présente. Et puis bon, j'ai des petits pains de la parole et j'en tire un, voilà. Et là, c'était « Faites silence pour m'écouter ». Et en fait, j'ai réalisé que ça faisait peut-être 20 minutes que j'étais dans ma chambre en silence, mais qu'en fait, mon cœur n'écoutait pas le Seigneur. Enfin, que j'avais un blabla à l'intérieur. Et qu'en fait, là, en plus, il se trouve que du coup, j'ai fait silence et que le Seigneur avait quelque chose de précis à me dire à ce moment-là. Mais voilà, en fait, outre le silence des mots, être attentif dans notre cœur à faire ce silence. Et voilà, et peut-être que ce qui peut nous aider, c'est de, si on sent qu'on est particulièrement dans un jour où on est agité, etc., c'est de lire peut-être avant de partir en mission la petite parole, la page de l'évangile où le Seigneur dit à la mer, tais-toi. Voilà. Où les disciples, ils sont pris par l'ouragan, et puis voilà, et le Seigneur dit tais-toi. Et le Seigneur, il a cette force, cette autorité pour faire taire en nous. Ce qui ne doit pas parler à ce moment-là. Enfin, la dernière question du silence, c'est le silence par rapport aux fausses idées qu'on peut avoir de comment écouter l'Esprit-Saint, et notamment au fait qu'on peut penser qu'écouter l'Esprit-Saint, c'est se concentrer très fort, ou répéter des paroles incantatoires, voilà. En fait, parfois, on peut avoir pensé qu'en fait, on va faire venir l'Esprit-Saint à la force de notre poignet, en étant comme si c'était un peu de la magie. Voilà, je vais focaliser toute mon attention sur l'Esprit-Saint et du coup, il va. Et en fait, ça, c'est encore un bruit parasite qui nous permet pas d'être vraiment vide de nous-mêmes et silencieux. Saint-Esprit, nous te bénissons de parler dans le silence d'une brise légère, plus que dans la violence d'un ouragan. Nous te demandons de purifier nos cœurs de tout désir de vaine gloire, de toute attirance pour les phénomènes extraordinaires en vue de notre propre gloire, de toute tentation d'instrumentaliser ta puissance. Donne-nous de pouvoir nous tenir en paix et en silence pour entendre ta voix et nous laisser guider par elle. Amen. Ensuite, une fois qu'on a écouté, il y a la question de reconnaître la voix de l'Esprit-Saint et de lui obéir. C'est toujours un peu les deux questions. Il y a d'abord écouter et ensuite il y a obéir. Parfois on entend, on sait très... C'est toujours un peu... C'est la question de la vie chrétienne. Hein. Il y a la question du discernement et ensuite il y a la question de l'obéissance. Et parfois on n'a pas la claire vision de ce qu'on doit faire et parfois on l'a, mais on ne se sent pas la force de l'accomplir. Bon. Ben là, dans l'évangélisation, c'est un peu pareil. C'est qu'est-ce que le Seigneur veut que je dise ? Et ensuite, une fois que je pense que c'est ça, ben, il faut y aller. Voilà. Et je pense que alors, j'ai fait un petit moyen mnémotechnique pour savoir comment faire. C'est l'ado pour l'OPA. Alors, bon, l'OPA, c'est un peu agressif, mais aimer, discerner, obéir. Et dans l'obéissance, c'est... Enfin, non, aimer, discerner, oser. Et oser, c'est obéissance, promptitude, audace. Donc, bon, c'est mes petits trucs, hein, c'est ma petite tambouille. Vous n'êtes pas obligé de... C'est pas par l'évangile, hein, mais voilà. Aimer, parce qu'en fait, parce qu'on peut se dire, selon ce qu'on sent, on peut ne pas trop savoir, est-ce qu'il faut le dire, ou est-ce que je me plante, et qu'en fait, c'est pas le Seigneur qui me parle, voilà. En fait, le Seigneur, a priori, il bénit, il libère, il guérit. Donc en fait, quand on dit ces choses-là au nom du Seigneur, quand on a une parole de bénédiction, quand on est dans une louange et une bénédiction intérieure, a priori, on se plante pas. Voilà. Si vous dites du bien de la personne, si vous dites du bien... pour son entourage, etc., etc. De toute manière, vous êtes dans ce que le Seigneur veut. Ensuite, il y a la question du discernement. Et alors, la question du discernement, c'est comment le Seigneur parle-t-il ? Et en fait, le Seigneur, il parle, il y a plein de manières dont il nous parle. Il nous parle dans les faits. Et parfois, vous allez vous trouver, vous, à avoir une intelligence de la situation que la personne vous expose, que elle-même ne va pas forcément avoir. En fait, le fait de fréquenter le Seigneur, ça nous donne, et de prier, ça nous donne une sorte de profondeur de vue que les gens qui ne le fréquentent pas n'ont pas forcément. Enfin, je ne sais pas si... je vais essayer de donner des exemples un peu concrets, mais moi, par exemple, je vois dans ma vie que le Seigneur, il me travaille par chantier. Il ravale un peu, mais par... voilà, là, je sens qu'il travaille cette question ou telle autre. Et en fait, pendant plusieurs mois, bah en fait, il y a des concours de circonstances, des conversations, des choses que je vais lire un peu par hasard. Et au bout d'un moment, je commence à me dire, en fait, c'est vraiment ça que le Seigneur est en train de travailler en ce moment. Et, Et de la même manière, l'exemple qu'on pourrait prendre dans l'écriture, c'est toujours Élie et Samuel. Vous voyez, Samuel ne connaît pas le Seigneur. Et donc, à chaque fois, il pense que c'est Élie qui l'appelle. Et Élie, lui, il connaît le Seigneur. Et au bout de la troisième fois, il se dit, OK, bon. Et lui, il comprend, voilà. Et là, parce qu'il a cette expérience, cette relation avec le Seigneur, il a une capacité d'aider Samuel. Et nous, parfois, dans la rue, les gens vont vous raconter leur vie, ils vont vous raconter des événements, et eux, ils en auront une lecture, voilà. Et vous, vous allez peut-être avoir un éclairage d'un sens plus profond de ce que les gens sont en train de vous dire. Donc, moi, je pense par exemple à une dame, 93 ans, Pierrette. En gros, au début, elle voulait pas parler, puis après, en fait, elle commençait à nous parler de sa vie, et en gros, de ce qu'elle nous a raconté, on a compris qu'elle était bloquée dans l'idée d'avoir une relation avec le Seigneur parce que sa grand-mère, qui était très pratiquante, croyante et tout ça, en fait, était tellement ne l'aimait pas et lui faisait tellement sentir qu'elle préférait être punie et rester au pensionnat le week-end plutôt que d'aller chez ses grands-parents. Et en fait, voilà. Et elle disait, ma grand-mère, elle se ruait au premier. Et en fait, elle a raconté ça au milieu d'autres choses. Mais avec mon binôme, on a vraiment senti que le nœud de sa vie, c'est quand même triste à 93 ans d'être bloqué. Enfin, c'est triste et en même temps, ça nous renvoie, nous, à la question du témoignage qu'on donne par toute notre vie. Voilà. Mais nous, en fait, on a pu sentir qu'en fait, il y avait quelque chose là de vraiment fondamental dans sa vie à elle. Alors qu'elle le racontait au milieu de plein d'autres choses. Et donc, on a pu essayer de reparler de ça, voilà, pour essayer de faire avancer la relation. Donc, voilà, il y a la question des faits, des circonstances où nous, on peut voir que l'Esprit Saint parle, en fait, dans ça. Ensuite, il y a la question de la motion intérieure. Donc, la motion intérieure, c'est ce petit mouvement que vous sentez dans votre âme et qui fait et qui vous pousse à une action extérieure. Donc, c'est un mouvement intérieur pour un mouvement extérieur. Et donc, la particularité des motions, c'est que plus on obéit à l'Esprit Saint, plus on en a. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que... c'est la manière dont l'Esprit Saint nous... Mais c'est tout simple. Une motion, c'est dans le bus, lève-toi et donne ta place à cette personne. Enfin, c'est un petit mouvement du cœur qui pousse à la charité vers le prochain, qui pousse... Et en fait, à chaque fois, on a la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Et donc, dans l'évangélisation, il faut être sensible, voilà, à ce petit mouvement du cœur, par exemple, qui va peut-être vous dire aborde celui-là. Voilà. Et bon, vous êtes complètement libre et vous pouvez vous dire n'importe quoi, mais en fait, vous pouvez aussi vous dire c'est peut-être le Seigneur qui me parle, hop, allons-y. Ensuite. Il y a la parole du Seigneur. Donc, la parole de Dieu, c'est la manière dont le Seigneur nous parle, comme le nom l'indique, mais il faut vraiment entrer dans la foi que cette parole, elle nous parle à nous et elle peut parler aussi aux personnes qu'on a rencontrées. Donc il ne faut pas hésiter. Peut-être que vous n'avez pas de Bible là et tout, mais si vous faites des missions et tout ça, soit avoir des petits pains de la parole et inviter les gens à en prendre un. Et souvent, en fait, ça rejoint les préoccupations des gens. Enfin, moi, je me souviens d'une dame qui était avec ses béquilles et tout ça, une personne âgée qui me disait « Mais moi, j'ai plus de force » et tout ça. Et en fait, c'était... Et donc, elle avait un problème au genou. Et elle, le petit papier, c'était « Le Seigneur soutient ceux dont les genoux chancellent », etc. Enfin, c'était... Et en fait... Vraiment, si vous avez dans le cœur l'idée qu'il faut parler de telle parole de l'Évangile, c'est encore mieux si vous avez votre Bible et que du coup vous pouvez lire le passage en question. Mais croyez que la parole du Seigneur, elle nous parle, que le Seigneur parle dans sa parole. Et notamment, moi je peux vous dire une fois. J'étais avec une amie et elle allait pas très bien, donc je lui ai proposé qu'on prie ensemble un soir. Après, on avait dîné ensemble et puis on prie. Et là, vraiment, je me dis, est-ce qu'on prend un chant et tout? Et puis là, vraiment, le Seigneur me dit, prends le psaume 118. moi je connais pas tous les psaumes par cœur, et notamment je connaissais pas le psaume 118. Bon, et je commence à le lire, et en fait c'était clairement une réponse à la difficulté dans laquelle était mon ami. Et voilà, bon, après j'en ai parlé avec mon père Spi m'a dit, bon, mais il faut, en fait, il faut pas chercher forcément le sensationnel à chaque fois, te dire, ah, mais c'est quand même hyper bien quand le Seigneur te dit c'est cette parole-là, voilà. En fait, il m'a dit, ben, c'est, le Seigneur te donne une grâce de voir qu'il parle dans sa parole, et en fait, ça veut dire que à tout moment, dans n'importe quelle parole, il faut savoir qu'il est là et qu'il parle. Enfin, une autre manière dont le Seigneur nous parle, c'est la question des charismes. Alors, le charisme, c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais le charisme, c'est donc ce don que le Seigneur fait pour l'édification du peuple. En fait, c'est vraiment à distinguer de la grâce qui est pour la sanctification personnelle. Le Seigneur nous donne des grâces pour nous rapprocher de lui, pour nous rendre plus saints. Il nous donne des charismes pour que nous aidions les autres à le rencontrer. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a des gros charismes n'est pas forcément un saint. Et que, bon, je suppose que les saints ont souvent des charismes parce que le Seigneur... parce que du coup, a priori, il les... Parce qu'il y a le risque du charisme, c'est de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais voilà. Mais en fait, dans l'évangélisation, il faut vraiment avoir l'audace de demander des charismes. Donc un charisme, il y en a plein, mais notamment il y a des charismes de prophétie ou de connaissance ou d'avoir des images. Ou, et en fait... si le Seigneur vous donne des charismes, bah, c'est pas que vous êtes plus saint que d'autres, mais c'est que la personne avec qui vous étiez en avait particulièrement besoin. Mais il faut demander. Enfin, moi, je me souviens les premières fois où j'ai entendu un peu la formation à la mission et voilà. On disait justement dans la partie sur l'écoute d'écouter l'Esprit Saint et et moi, jusque-là, je pensais un petit peu que écouter l'Esprit Saint, c'était bon, bah, je prie l'Esprit Saint et puis je fonce dans le tas en me disant que puisque je l'ai prié, il va. C'est lui qui me guide. Et en fait, oui, enfin, c'est pas. Enfin, oui, non, mais bon, faut pas foncer dans le tas. Mais oui, parfois, le Seigneur, c'est en fait tout simplement dans le fait qu'on est là et qu'on est à son service qu'il va parler. Mais il peut aussi donner des lumières très précises. Donc. Je vais vous donner un exemple. C'est une fois un homme que je rencontrais qui était complètement paumé. Paumé. Enfin, il nous parlait de numérologie. Marie, c'est le 181. Jésus, c'est le 100, je sais plus trop quoi. Il était né en même temps que l'éclipse de je sais pas trop quoi. Enfin, bref, c'était hyper compliqué. Donc moi, je, pour le coup, je commençais à me dire la barbe. Et je me disais, bon, on va mettre fin à cette conversation qui ne nous mène nulle part. Et puis voilà, je me dis quand même, bon, Saint-Esprit, si tu veux nous filer un coup de main, là, c'est bien. Et là, cet homme a un problème, est blessé dans sa relation avec sa mère. D'accord ? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, je dirais, voilà, le Seigneur me met dans le cœur que peut-être il y a quelque chose dans votre relation avec votre maman, et tout ça. Bon, parce que, en fait, si on pense que ça vient du Seigneur, il faut y aller, quoi. Et moi, à l'époque, c'était la première fois qu'il m'arrivait un truc comme ça, donc je dis, est-ce que vous habitez chez vos parents ? Sachant que le gars avait 40 ans ou 45 ans, donc c'était un peu bizarre, mais voilà. Et là, en fait, lui, il répond... qu'il vit chez sa grand-mère parce qu'on a retiré la garde à sa mère quand il avait 5 ans. Donc voilà. Là, propose-lui Marie comme une maman. Dans ma poche, une petite médaillette d'ail miraculeuse. Moi, j'en avais qu'une. Parfois, j'en ai plus. Est-ce que vous pourriez prendre Marie comme une maman ? Et en fait, et là, le gars, alors que jusque-là, vraiment, c'était la pataugeoire, quoi. Enfin, non, mais je veux dire, la conversation... Et en fait, là, il commence à nous raconter sa vie et tout. Et il prend la médaille et voilà, bref. Bon, bah, en fait, moi, d'une part, je suis pas psy, je suis pas devin. Moi, toute seule, jamais je me serais dit, c'est ça le problème de ce gars. Et en fait, le Seigneur, il voulait rejoindre cet homme-là, et il prend un moyen plus costaud que ce dont on a l'habitude, voilà. Et en fait, nous, il faut qu'on soit ouvert à ça. Parce que c'est un chemin que le Seigneur peut emprunter. Ça veut pas dire qu'il le fera, et ça veut pas dire qu'il faut absolument vous chercher ça. Mais il faut demander au Seigneur que si, enfin, lui dire qu'on est disponible pour ça. Voilà. Donc voilà un peu les manières dont le Seigneur parle. J'en ai peut-être oublié, mais
voilà, c'est pas mal.
C'est déjà pas mal. voilà. Et donc en fait, dans la question du discernement, il y a un peu le fait de savoir que les manières dont le Seigneur parle. Et puis après, il y a les questions de comment est-ce que le Seigneur me parle à moi en particulier. Et ça, c'est toute la question de votre vie chrétienne, c'est que probablement, bah, vous avez fait l'expérience que vous, le Seigneur, il vous parle, il y a une voie privilégiée par laquelle il s'adresse à vous. Et du coup, et en fait, cette voie-là, c'est important parce qu'en fait, c'est de votre connaissance du Seigneur que vous avez le discernement pour savoir ce qui vient un peu de lui et ce qui vient pas. Ça veut pas dire que voilà, mais là, c'est il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voie. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Voilà, essayez de savoir quelle est la voie avec laquelle le Seigneur vous parle à vous. Et puis, essayez de connaître vos forces et vos faiblesses dans l'écoute et la mise en œuvre. Parce que, enfin, moi je sais que par exemple, parfois je sens que le Seigneur me demande un truc et je sais que ça vient de lui. Et en fait, si je me mets à discuter, c'est-à-dire si je me mets à dire « Non, mais t'es sûr, non mais attends, peut-être... » Enfin, voilà, en fait, je souvent... Après, arrive un moment où je suis brouillée, en fait. Vous voyez, il peut y avoir une motion très claire au départ. Et en fait, à partir du moment où je vais commencer à la discuter, arrive un moment où, effectivement, j'arrive plus à savoir. Enfin, où j'ai réussi à me baratiner sur le fait que c'était pas sûr que ça venait de Jésus. Voilà. Et bon... Donc, aimer, discerner et oser. Alors, oser, en gros, l'idée, c'est ce que mon premier pasteur m'avait dit... Aucun discernement n'est infaillible. Je disais, jamais, alors parfois on voit après qu'on ait choisi de suivre telle ou telle voie, on va avoir des fruits et des bénédictions, donc on va plutôt penser qu'on a pris la bonne voie. Mais en fait, le Seigneur, de toute manière, il recalcule toujours le GPS pour nous bénir toujours plus. Donc en fait, il y a un moment où aucun discernement n'est infaillible. Voilà, bon. Et puis... Voilà, donc c'est, à la fois ça peut être flippant, hein, parce qu'on se dit, bah, en fait, on peut toujours se planter, et en même temps, c'est rassurant parce que ça veut dire que Dieu nous accompagne partout et qu'il trouvera toujours une issue de secours. Donc voilà. Et une phrase là, pour le coup, de mon père actuel, c'est il dit, parfois, il vaut mieux faire un choix B que pas de choix du tout. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que parfois, peut-être que la voie que le Seigneur veut pour nous, c'est plutôt la voie A. Mais en fait, plutôt que de rester toute sa vie au carrefour, eh ben, il vaut mieux faire le choix B. Donc, il faut
prendre une décision. En tout cas.
Voilà, c'est ça. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Parce qu'après, le Seigneur... Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on sent dans notre cœur des choses. En fait, on ne sait pas si c'est le Seigneur qui... Dans l'évangélisation, hein, on ne sait pas si c'est le Seigneur qui nous dit d'y aller. Et en fait, parfois, c'est par orgueil ou par peur d'avoir l'air ridicule qu'en fait, on ne va pas y aller. Alors qu'en fait, au pire, on est humilié et par ça, on est un peu plus configuré au Christ, enfin, si on n'a que l'humiliation. Donc, il faut oser parce que sinon, c'est... Enfin, je donne un exemple. Dans le métro... Je suis allée en Israël, j'ai ramené plein de petits trucs de bois d'olivier, notamment une petite vierge à l'enfant. Je voyais des amis qui avaient eu un bébé, je devais leur donner comme cadeau de naissance. Finalement, je me suis dit, ah non, ça, je vais encore passer pour la grosse cato, donc j'avais acheté des fringues pour le bébé, j'ai donné des fringues, et puis du coup, je reviens à Paris et j'avais toujours dans ma valise la petite statue. Je suis dans le métro, en face de moi, un homme avec son petit garçon, ils avaient l'air hyper tristes, on se regarde, ils me regardent, je les regarde. Donne-leur la statue qui est dans ton sac. Je me dis, oh là 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 là, je vais encore passer. Je me dis, oh non, 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 voilà. Donc, mais vraiment, ils me regardaient, tous les deux. Je les regardais un peu, voilà. Donne-leur la statue qui... Je me dis, oh non, 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 mais bon. Alors, et là, je me dis, ok, s'ils descendent à la même station de métro que moi, je leur donne. Ils descendent à la station d'avant moi, ils montent l'escalator... Et il continuait à me regarder en montant l'escalator alors que moi j'étais assise dans mon métro et que j'avais pas donné ma statue. Bon, j'en sais rien. Si ça se trouve, c'est moi qui me suis inventé qu'il fallait que je donne cette statue. Mais de fait, je l'ai jamais fait. Peut-être que si je l'avais fait, il m'aurait pris pour une dingue. Ou qu'il se serait dit, mais on lui a rien demandé celle-là, qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai été très triste de pas l'avoir fait, en fait. Voilà. Je me suis dit, ben en fait, j'aurais dû. Parce qu'en fait, j'ai préféré mon image. Voilà. Bon. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire les actes les plus fêlés de la Terre à chaque fois qu'on se dit qu'on a une élucubration. Hein. Mais ce que je veux dire... Et puis en plus, là, c'était un contexte particulier parce que c'était pas dans la mission et tout ça. Mais Mais et puis il faut aussi être, enfin c'est, en fait tout est, c'est beaucoup une histoire de nuances hein, quand même, l'écoute de l'Esprit Saint, donc il faut être prudent aussi hein, le but c'est pas que les gens se disent que qu'on est tous cinglés, mais je pense que il faut quand même oser, voilà. Il faut le plus possible, il faut essayer de d'oser. Alors maintenant, plus précisément, du coup, donc voilà, donc aimer, discerner, oser. Promptement, parce que plus vous discutez avec vous-même, plus généralement vous finissez par vous dire que c'est quand même plus sage de ne rien faire. Donc voilà. Et après, donc plus précisément dans la rencontre de la mission, dans la rue, là, quels sont les moments privilégiés pour l'écoute de l'Esprit Saint? Alors il y a la question du choix de la personne à aborder, donc on en avait un peu parlé hier, un peu est-ce qu'on aborde tout le monde, est-ce qu'on choisit quelqu'un, est-ce que voilà. Je pense que c'est bon au moment où on sort dans la rue de dire à l'Esprit Saint, ben, Seigneur, conduis nos pas vers les personnes qui ont le cœur ouvert et qui sont prêtes en fait à te rencontrer aujourd'hui. Et puis éventuellement de sentir un peu s'il y a un big fish quoi. Voilà. Et en même temps, le but c'est pas de rester une demi-heure en se disant bon bah en fait j'ai senti personne, donc enfin voilà, on n'est pas, c'est pas en fait, il faut faire vraiment essayer de distinguer entre la question du sensible quoi, de se dire ah bah là je me sens à l'aise, j'ai un bon feeling, voilà, et la question de le Seigneur nous conduit vers quelqu'un quoi, donc voilà, faut y aller et en même temps être ouvert au fait que peut-être que vous allez sentir une petite motion vers une personne en particulier. Ensuite, bah, évidemment, il y a la question de l'écoute. Vous voyez dans les 8 étapes, aborder, se présenter, poser une question. Ensuite, il y a l'écoute. Et donc, dans l'écoute, il y a particulièrement cette question de l'écoute de l'Esprit Saint. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, comprendre le sens caché des événements évoqués par la personne. Laisser monter éventuellement une parole qui va nous éclairer sur la situation de la personne. Voilà, peut-être que voilà, il y a un texte qui vient dans votre, qui vient et qui reste un peu présent, voilà, une parole d'évangile, bah peut-être que vous pouvez dire bah ouais, c'est étonnant, je sais pas pourquoi je pense à ça, ou vous trouvez une, voilà, et en fait peut-être que la personne va vous dire ah, mais c'est étonnant, vous disiez ça parce que justement voilà, demander des charismes. Après, l'autre moment où vraiment il faut être allé, enfin où l'écoute de l'Esprit Saint est particulièrement importante, c'est ce moment où on propose la prière. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est en fait une sorte de prière des frères avec la personne qui est dans la rue. Et donc là, a priori, si elle a accepté de prier, c'est que son cœur est un peu ouvert et que son cœur est disponible pour, en tout cas, pour entrer dans un tout début de relation avec le Seigneur. Et du coup, voilà, d'être hyper attentif à ce que le Seigneur peut vouloir dire, voilà. Et puis, enfin, il y a la question du moment du départ, en fait, voilà, de sentir un peu le moment où il faut dire bon bah merci beaucoup, au revoir. Voilà. Et vraiment, j'insiste sur le fait que parfois, il vaut mieux ne pas tenir la jambe à la personne pendant 5 heures et avoir donné soi-même le signal du départ. Au moins, elle gardera un bon souvenir en se disant ils m'ont pas saoulé. Le dernier point, c'est un peu comment progresser dans l'écoute de l'Esprit Saint. Une double chose, c'est qu'à la fois l'écoute de l'Esprit Saint, c'est vraiment une grâce, donc en fait ça dépend pas vraiment de nous, enfin, c'est le Seigneur qui donne des charismes, des émotions gratuitement, donc c'est pas un truc qu'on va mériter et tout, et en même temps le fait d'être docile, c'est un muscle, donc du coup une vertu, du coup il faut demander ça. Et puis dans la vie quotidienne, voilà ce que je disais tout à l'heure, plus on obéit aux petites motions, plus vous allez vous lever à chaque fois que dans votre cœur, le Seigneur vous dit donne ta place, à chaque fois qu'il va te dire donne une pièce à un mendiant, à chaque fois qu'il va vous donner va chercher la carafe d'eau, j'en sais rien, enfin c'est souvent des petits services, mais ça peut être couche-toi, voilà. Il est tard ou vous êtes fatigué. Et en fait, vous vous dites, oh, mais si je lisais encore 3 pages de mon livre, et qu'en fait, le Seigneur te dit, couche-toi. Oui, non, j'obéis. Enfin, c'est toutes ces petites choses-là où le Seigneur, en fait, nous aide à aiguiller notre vie, et puis on le fait ou on le fait pas, quoi. Après, il y a aussi la question du chant en langue. Alors, le chant en langue, c'est considéré comme étant la porte des charismes. Donc, pour beaucoup, il y a beaucoup de gens, le chant en langue, ils se disent, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, moi, je sais que pendant longtemps, j'étais là, oh là, 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 ça y est, c'est reparti dans les shabadabada. Mais en fait, j'avais entendu le topo d'un prêtre et c'est très intéressant. C'est qu'il disait, en fait, le chant en langue, c'est le plus petit des charismes. C'est effectivement ça, on n'a pas le sentiment que ça contribue beaucoup à l'édification, pas par rapport à la prédication, voilà. Et en même temps, en fait, c'est là où on apprend la docilité à l'esprit, on apprend à se laisser faire un peu, à ce qu'il se passe quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et donc on entre un peu dans une vie charismatique. Enfin, là, peut-être la dernière chose, c'est de se dire que... la question du discernement des esprits, c'est quelque chose qui a été notamment beaucoup travaillé par les jésuites. Et donc, il y a ce qu'on appelle les exercices de Saint-Ignace. Donc, c'est des retraites qui sont prêchées par les jésuites, ou avec un accompagnateur, etc. Et donc, c'est des super... Enfin, mais bon, vous pouvez faire soit des exercices, soit ne serait-ce qu'une initiation au discernement des esprits avec soit des jésuites, soit d'autres. Il y en a d'autres qui le font, mais... voilà, pour apprendre, en fait, à grandir dans le discernement, voilà. Et puis, enfin, le fait d'être accompagné spirituellement, donc d'avoir un père spirituel. Oui, mère, pas chaud. Mais voilà, ça, en fait, parce que souvent, on le voit dans la vie, même non spirituelle, c'est que souvent, quand nous, on a le nez dans le guidon, bah, quelqu'un d'autre saura mieux nous dire, non mais, attends, là, enfin, moi, je sais pas, même avec des amis, on se rend compte parfois que un coup c'est nous qui sommes le nez dans le guidon et nos amis qui sont un peu extérieurs ils sont bien plus capables de nous dire non mais attends là de manière objective c'est assez clair ce que tu devrais faire et nous on serait à leur place on aurait exactement le même raisonnement mais comme nous on est dans le nez dans le guidon voilà et donc du coup c'est hyper précieux d'avoir un accompagnateur spirituel et ça nous aide à progresser dans l'écoute d'Esprit Saint parce que justement on a quelqu'un d'extérieur et donc ça nous libère un peu de tout ce qui est nos prismes affectifs, psychologiques, voilà, qui peuvent fausser un peu le... Voilà. Donc du coup, tous ces moyens-là, c'est des moyens qu'on peut prendre pour se dire qu'en fait, dans notre vie quotidienne, on apprend à être plus à la suite du Seigneur. Voilà. Ah, c'est bon.